derrière, sachant que cette convention, je crois, est liée sur 4 ans. On est lié. Et en gros, c'est 5 euros par poteau qu'on devra après vérification. Ça divise par deux le coût qu'on avait aujourd'hui, qui était en gros de 7000 euros, je crois, et qui correspondra en gros, parce que je crois qu'on a 73 ou 75 poteaux incendie, donc avec ce contrôle à 5 euros par poteau. Des questions ?
Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 11. Résiliation du mandat exclusif d'administration de biens du parc de logements locatifs communaux. Par délibération du 14 décembre 2021, la ville de Camaret a souhaité déléguer la gestion de son parc de logements locatifs à la société SAS Rosier-Labbé, Juristimo, à Bolène, par le biais d'un mandat exclusif d'administration de biens pour 11 logements communaux. Ces missions ont pour objectif la recherche de locataires, les visites et états des lieux d'entrée et de sortie, la rédaction des baux, les demandes et vérifications de justificatifs, l'encaissement des loyers et charges à reverser à la commune via le trésor public, le suivi des révisions légales des loyers, les procédures et poursuites éventuelles en cas de non-paiement des sommes dues, le suivi et le conseil de la commune concernant les travaux à réaliser et leur imputation au bailleur ou au locataire selon les textes en vigueur, l'accompagnement des visites annuelles. Compte tenu de l'incompatibilité de son fonctionnement avec les spécificités de la gestion budgétaire et comptable publique, notamment au niveau du respect des délais de comptabilisation des recettes, la commune décide de mettre fin sans indemnité au mandat exclusif d'administration de biens pour les 11 logements locatifs à compter du 31 décembre 2022. Vu la réunion organisée en mairie le 6 septembre en amont de cette décision avec les gestionnaires de la société concernée, vu le courrier adressé par être recommandé à la société Rosier-Labbé le 9 septembre 2022 afin de les informer de la fin de leur mission au 31 décembre 2022, considérant que la commune souhaite reprendre à sa charge la gestion de son parc de logements locatifs au 1er janvier 2023, vu l'avis favorable des services de gestion comptable de la commune, vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 26 septembre 2022, il est demandé au conseil municipal d'approuver la décision de résiliation du mandat exclusif d'administration des 11 biens immobiliers de la commune à compter du 31 décembre 2022, d'autoriser la commune à reprendre la gestion de son parc de biens immobiliers dès le 1er janvier 2023. Y a-t-il des questions ?
Oui.
Monsieur Savin.
La commune décide de mettre fin sans indemnité au mandat exclusif. Est-ce qu'il n'y aura pas des poursuites pour rupture de contrat ?
Alors, en fait, lors de la réunion que nous avons eue avec les gestionnaires de la société, donc c'est une séparation qui est tout à fait à l'amiable, et même on leur a demandé de nous faire une autre proposition avec des missions plus réduites, notamment pour éviter cet écueil avec la comptabilité publique. Donc ce serait, s'ils l'acceptent, une mission beaucoup plus limitée et qui se limiterait à la recherche de locataires et aux états des lieux, en gros. Donc voilà, on attend leur réponse et puis sinon nous repartirons comme avant.
Merci.
Monsieur Normani.
Monsieur le maire, merci de nous donner la parole. Bon, quand je vois ça, je ne sais pas trop quoi dire. Rappelez-vous quelles étaient mes remarques lorsque vous avez fait appel à ce prestataire et dans lequel j'avais beaucoup d'inquiétudes. Et auquel vous m'aviez vertement fait remarquer que le personnel de la mairie n'avait pas les capacités ni les compétences pour faire cette fonction. Je parle à monsieur le maire, hein. Merci.
Poursuivez, cher monsieur Normand.
Merci, monsieur le maire. Et donc, vous mettez terme à ce contrat. Donc, effectivement, comme il vient de dire mon collègue, a priori, vous avez géré la situation. Ma question est, comment allez-vous faire pour la suite pour gérer ce parc qui appartient à la ville et dont vous aviez des difficultés à faire la gestion ?
Merci. Je vous ai déjà répondu par avance. En fait, nous leur avons demandé de nous faire une autre proposition où ils vont se charger de faire ce que nous, effectivement, nous n'avons pas trop notamment une question de temps, le temps matériel pour faire les visites, les recherches de locataires, les états des lieux. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle on leur a demandé, en tant que spécialiste, en tant que professionnel, de nous assister. Et ils vont nous faire une proposition que nous accepteront ou pas, mais voilà, on attend leur proposition.
Ça veut dire que pour l'autre partie, c'est vous-même qui la prenez en charge.
Voilà, exactement. Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 12. Police municipale. Approbation de la convention de mise à disposition du stand de tir. Rapporteur Jean-Luc Dacosta.
Dans le cadre de la formation obligatoire d'entraînement au maniement des armes des policiers municipaux, il est indispensable pour les agents d'effectuer 2 sessions d'entraînement de tir par an. À cet effet, un moniteur au maniement des armes est mis à disposition par le Cercle national de la fonction publique territoriale, moyennant une participation financière de la commune liée par convention avec un stand de tir homologué à hauteur de 60 euros par agent et par séance. Jusqu'à présent, les séances de tir des agents de la commune se pratiquaient au stand de tir de l'association sportive des tireurs de l'aigle. Or, cette structure n'est désormais plus homologuée. Afin de maintenir les séances obligatoires pour les agents de la police municipale de la commune, le complexe de tir sportif homologué est situé à Vedaine, propose par le biais d'une convention la mise à disposition d'une salle de tir moyennant un prix forfaitaire de 45 euros par agent et par séance. Vu le code général de la fonction publique, vu le code de la sécurité intérieure, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention avec le complexe de tir sportif pour la mise à disposition d'un centre de tir, d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention et à engager les dépenses afférentes.
Des questions? Eh bien, écoutez, pas de questions. Alors, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, pas comme le chauffage, mais monsieur, c'est important. Hein. Dossier numéro 13. Majoration du taux de la part communale de la taxe d'aménagement. Rapporteur Christine Winkelmann.
Monsieur le maire indique que pour financer les équipements publics de la commune, la taxe d'aménagement a été mise en place au taux de 3,5 par délibération 2011 des LIB 108 du 10 novembre 2011, en remplacement de la taxe locale d'équipement TLE et de la participation pour l'aménagement d'ensemble PAE. Par délibération 2018 des LIB 048, en date du 5 juillet 2018, ce taux a été porté à 4,5. En outre, conformément à l'article L331-9 du Code de l'urbanisme, il était autorisé les exonérations suivantes. Dans la limite de 50% de leur surface excédente 100 mètres carrés, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale qui ne bénéficient pas de l'abattement mentionné au deuxième de l'article L331-12 et qui sont financés à l'aide du prêt ne portant pas d'intérêt prévu à l'article L31-10-1 du Code de la construction et de l'habitation, logement financé avec les PTZ+. Dans la limite de 50% de la superficie, les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés. Dans la limite de 50% de la surface, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Ainsi qu'une pénalité de 80% du montant de la taxe en cas de construction sans autorisation ou en infraction des obligations résultant de l'autorisation conformément à la délibération 2016 des LIB 027 du 3 mars 2016. Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L331-1 et suivants, considérant que parallèlement au développement des aménagements et constructions sur le territoire communal, la commune se doit de créer, développer ou requalifier des équipements, notamment en matière de voirie ou de cheminement piéton, conformes aux normes d'accessibilité. Considérant que la commune peut fixer librement le taux de la taxe d'aménagement, conformément aux articles L331-14 et L332-15 du Code de l'urbanisme, il est donc proposé de porter le taux de la commune à 5%. Il est demandé au conseil municipal de porter sur l'ensemble du territoire communal le taux de la part communale de la taxe d'aménagement à 5%, de maintenir les exonérations autorisées ainsi que les pénalités de 80% du montant de la taxe en cas de construction sans autorisation ou en infraction des obligations résultant de l'autorisation. De dire que le taux et les exonérations pourraient être modifiés tous les ans. La présente délibération sera transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant son adoption. Y a-t-il des questions ?
Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 14. Convention de reversement de la part communale de la taxe d'aménagement sur le périmètre des zones d'activité économique intercommunale. Rapporteur Hervé Auriac.
La loi de finances 2022, article 109, a rendu obligatoire le reversement d'une partie de la taxe d'aménagement aux EPCI à fiscalité propre, jusqu'alors facultatif. L'article L331-2 du Code de l'urbanisme affirme que tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversée à l'établissement public de coopération intercommunale compte tenu de la charge des équipements publics relevant sur le territoire de cette commune de leurs compétences dans des conditions prévues par délibération concordante du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'EPCI. La compétence et développement économique ayant été transférée à la communauté de communes, l'aménagement et l'entretien des espaces publics de la zone d'activité économique Jonquier et Morel sont entièrement financés par la CCAOP. Par délibération 2022-088, en date du 22 septembre 2022, le Conseil communautaire a approuvé la définition du périmètre des zones d'activité et le principe de reversement de la part communale de la taxe d'aménagement sur le périmètre. Pour répondre aux dispositions mises en place par la loi de finances 2022 et permettre à la CCAOP de poursuivre ses aménagements, aussi bien dans la zone d'activité actuelle que dans celle à venir, il est proposé le reversement du produit de la part communale de la taxe d'aménagement à la communauté de communes Aigouvès-en-Provence pour l'ensemble de la zone d'activité économique Jonquier-Morel, ainsi que pour la zone d'activité à venir 6 avenue Fernand-Gonnet, modification numéro 3 du PLU en cours. Il est demandé au Conseil d'approuver le principe de reversement intégral du produit de la part communale de la taxe d'aménagement à la CCAOP pour l'ensemble de la zone d'activité économique Jonquier et Morel, ainsi que pour la zone d'activité à venir 6 avenue Ferlingonnet, voire périmètre 6 juin, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Des questions ? Merci.
Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Dossier numéro 15. Création de servitude de droit privé. Rapporteur Christine Winkelmann.
Monsieur le maire expose que lors de l'aménagement de l'immeuble communal 6 Secours du Midi, cadastré section AW106, l'antenne du dit immeuble a été fixée sur l'immeuble voisin, cadastré section AW211, avec l'autorisation du propriétaire, mais sans document régularisé à cet effet. De plus, toujours lors des travaux de la réhabilitation de cet immeuble, il a été constaté que les réseaux d'eau usée et d'eau pluviale d'une partie de l'immeuble cadastré section AW211 s'écoulaient sous une partie de l'immeuble cadastré section AW106, propriété de la commune, sans qu'il n'y ait jamais eu de servitude conventionnelle à ce sujet. Afin de régulariser cette situation entre la commune de Camaret-sur-Aigle, propriétaire de la parcelle cadastrée section AW106, et M. Desbibles, propriétaire de l'immeuble cadastré section AW211, il convient de créer deux servitudes conventionnelles, établies par acte notarié pour organiser les relations entre les deux fonds voisins de manière durable. Il est demandé au conseil municipal d'accepter la création de deux servitudes conventionnelles pour régulariser la situation existante, l'une au profit de la commune de Camaret-sur-Aigle pour la pose de l'antenne sur l'immeuble cadastré section AW211 et la seconde au profit du propriétaire de l'immeuble cadastré section AW106 pour le passage des réseaux sous cet immeuble, de désigner maître Fanny Montagnier pour constituer ces servitudes, de préciser que les frais liés à la rédaction de ces actes seront répartis entre les deux propriétaires. Y a-t-il des questions ?
Alors, je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 16, mise à jour du tableau de classement des voies communales, rapporteur Hervé Royac.
L'article L141-3 du Code de la voirie routière fixe la compétence du conseil municipal pour le classement et le déclassement des voies communales. Suite à la dénomination de plusieurs voies de la commune non classée, vu le Code de la voirie routière, notamment l'article L141-3, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L2131-2, vu la loi 89-413 du 22 juin 89 relative au Code de la voirie routière, vu l'ordonnance 59-115 du 7 janvier 59 relative à la voirie des collectivités locales, il est demandé au conseil municipal d'approuver le classement dans la voirie communale les voies suivantes. Chemin Adélaïde Reboul, dénommé le 30 mars 2015. Allée Yvillers, dénommé le 19 novembre 2015. D'approuver le classement dans la voirie communale dite rurale, les voies suivantes, le chemin des Coufiches, dénommé le 10 mars 2011. D'approuver le classement dans la voirie communale dite urbaine, les voies suivantes, allée des Sports, dénommé le 10 mars 2011, et allée du 5 juillet 62, dénommé le 30 mai 2022. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
Merci. Y a-t-il des questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et les 10, convention de servitude autorisant l'implantation de câbles souterrains et coffrets électriques SCI les Canouilles. Rapporteur Hervé Royac.
Enedis gère en France le réseau de distribution d'électricité qui regroupe l'ensemble des lignes assurant l'acheminement de l'électricité vers les consommateurs. Considérant la nécessité d'améliorer la qualité de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique dans le cadre des travaux relatifs à l'alimentation du bâtiment privé de la SCI Les Canouilles, situé zone artisanale du Jonquier, rue Antoine Laurent de Lavoisier, cadastré par celle section AZ numéro 335. Afin de mener à bien ce projet, il convient de procéder à la pose de câbles en souterrain, comprenant entre autres le terrassement, la pose du câble, la réfection à l'identique de la voirie et tout ce qui se réfère à cette affaire conformément aux règles de l'art. Ce câble de 26 mètres passe sur la parcelle cadastrée section AZ numéro 278 appartenant à la commune et alimente via un coffret électrique Enedis les bâtiments de la SCI Les Canouilles. La présente convention est conclue entre la commune de Camaret et Enedis avec une indemnité unique et forfaitaire de 26 euros. Vu le projet de convention de servitude établi à cet effet par Enedis, il est demandé au conseil d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de servitude permettant à Enedis d'effectuer les travaux situés rue Antoine Laurent de Lavoisier et concernant l'alimentation électrique de la SCI Les Canouilles, sise sur la parcelle cadastrée section AZ numéro 335, d'une part, puis la pose de câbles en souterrain et d'un coffret électrique sur la parcelle cadastrée section AZ 278, propriété de la commune de Camaret. La présente convention est conclue sans aucune indemnité, sans autre indemnité unique et forfaitaire de 26 euros. Vous avez la convention jointe.
Pas de questions. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors nous entrons dans une série de rapports. Comité de communes de Gouvernance-en-Provence. Approbation des rapports annuels 2021 du délégataire de l'assainissement et sur le prix et la qualité des services de l'assainissement. Rapporteur Hervé Oriac. Ah oui, 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 excusez-moi. J'ai un peu pressé peut-être. Désignation d'un correspondant incendie et secours. C'est qui rapporte, c'est moi. Alors vas-y.
C'est moi. Vu l'article 13 de la loi 1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, vu l'article D731-14 du Code de la sécurité intérieure, vu le décret 2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d'exercice de la fonction de conseiller municipal correspondant à incendie et secours, considérant qu'il n'y a pas d'adjoint ou de conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile dans la commune de Camaret-sur-Aigle, considérant qu'à défaut de désignation d'un adjoint au maire ou conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile, le maire doit désigner parmi les adjoints ou les conseillers municipaux un correspondant incendie et secours avant le 1er novembre 2022. Considérant qu'en cas de vacance de la fonction de correspondant incendie et secours, la désignation intervient lors de la première réunion du conseil municipal qui suit cette vacance. Considérant que le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les incendies, et qu'il aura pour mission l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement, et au secours et soins d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, ainsi qu'à leur évacuation. Il a du boulot, hein. Il va passer ses heures en formation. Considérant que le correspondant incendie et secours doit informer périodiquement le conseil municipal des actions qu'il mène dans son domaine de compétences, considérant que la fonction de correspondant incendie et secours ne vaut droit à aucune rémunération supplémentaire, donc il est donc demandé au conseil municipal de désigner le correspondant incendie et secours.
Et nous proposons Monsieur Jean-Luc Dacosta. Y a-t-il des questions ? Ouais. Très bien. Mais écoutez, alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Félicitations, mon cher Jean-Luc. Dossier numéro 19, Communauté de communes de Gouvernance-en-Provence, approbation des rapports annuels 2021 du délégataire de l'assainissement sur le prix et la qualité des services de l'assainissement, rapporteur Hervé Royac.
Je fais fi du premier paragraphe. Je passe à la compétence. La compétence assainissement collectif a été transférée à la communauté de communes Aigouvès-en-Provence au 1er janvier 2009. La gestion du service est déléguée à la société Suez Environnement. Les volumes collectés sont traités à l'usine de Camaret. Il est rappelé que le prix du mètre cube facturé à l'usager est de 3,32 euros TTC, abonnement compris, prix identique à 2019 et 2020. La part fixe est de 47 euros hors taxe par an et par abonné. La part variable est de 2,48 euros hors taxe le mètre cube. Tarif unique depuis le 1er janvier 2019, comprenant la part collectivité et la part délégataire. Prix identique également en 2019 et 2020. En 2021, la CCAOP a engagé la mise à jour du schéma directeur d'assainissement collectif sur l'ensemble de son territoire. En 2021, des travaux de réhabilitation ont été engagés pour la commune de Camaret. Mise en œuvre du diagnostic permanent, réhabilitation du réseau des eaux usées impasse du Jonquier. D'autres travaux ont été engagés sur la station d'épuration à hauteur de 69 082,20 euros TTC et sur les postes de relevage situés lotissement Lissounaïo, chemin Jean Moulin, Lissounaïo, chemin Jean Moulin, quartier des Combes, rue Marie Curie et route de Rasto pour un montant total de 16 118,64 euros TTC. Les données chiffrées sont les suivantes. 1851 abonnés assainissement, 1831 en 2020, 28,55 km de réseau total assainissement, une usine de dépollution, 5 postes de relèvement, 2 déversoirs d'orage. Il est donc demandé au Conseil de prendre acte du rapport annuel 2021 du service de l'assainissement présenté par la société Suez Environnement, ainsi que le rapport annuel sur le 2021 sur le prix et la qualité des services de l'assainissement. Ce rapport est consultable en mairie lors de les heures ouvrables, on va dire, hein, d'accord ? Question ?
Oui, moi je voulais poser une question et surtout, enfin, à Motin une remarque. La question c'est, la société Suez gère la station d'épuration ou ne s'occupe uniquement que du traitement des déchets de...
La station est gérée par la...
Par qui elle est gérée?
La station et tout le réseau.
Oui, tout.
Tout le réseau, tout le réseau. Oui. Donc, et je pense qu'elle gère aussi toutes les stations d'épuration de la communauté des communes.
Oui, oui aussi.
Parce que je me demande si vous avez vraiment une confiance à la société, parce que je viens d'apprendre dernièrement que la station d'épuration du Chou, qui a 12 ans d'existence, vient d'être constaté qu'il faut toute la refaire et qu'elle a pour 500 000 euros, c'est pas une paille. Et que le pire, c'est que ça fait 12 ans et qu'on a dépassé la décennale. Ça veut dire que si la personne qui gère ça ne s'est pas rendu compte que ça ne fonctionnait pas, il y a des gégas. Hein.
Oui, là, effectivement, j'ai entendu parler de ça. Mais le problème, là, il n'est pas de la personne qui assure la gestion quotidienne et la maintenance. Le problème, il est au niveau de la construction et des entreprises qui l'ont construite.
Excusez-moi, M. Bailly, c'est eux qui se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, quand même. Oui. Quand ça ne fonctionne pas au bout de 7 ou 8 ans, on dit qu'il y a un problème. On n'attend pas 12 ans pour dire qu'il faut tout refaire.
Après, voilà. Je n'ai pas les détails. Est-ce que ça a dysfonctionné après?
Je ne sais
ça,
pas, mais je vous pose la question. Je vous propose de vous renseigner et de m'éclaircir sur ce point. Merci.
Est-ce que c'est la somme annoncée que vous dites là, 500 000 euros,
c'est ce qui a été annoncé hier au conseil de la communauté des communes. Monsieur Aurillac, moi je lis les délibérations et les dossiers de la communauté des communes.
J'ai le droit de partir 8 jours en vacances, moi aussi.
Non, mais tu as dû recevoir le dossier, comme moi.
Je ne l'ai pas encore reçu.
Voilà. Cela dit, il ne ressort pas que la société SOR soit en quelconque manière responsable de ce problème-là. C'est bien un défaut de conception.
Si dans votre maison, vous constatez un défaut de construction, vous allez voir, vous faites marcher la décennale. Vous n'attendez pas que la décennale soit passée.
Je ne vous renseignerai pas sur le plan technique, mais voilà, l'incident est arrivé plus récemment et il n'a pas été détecté spécifiquement avant. Voilà, il faut voter. Qui est contre?
Monsieur le maire, une petite question.
Oui, monsieur Normani.
Oui. Puisqu'ils étudient bien les stations d'épuration, là, à Suez, est-ce qu'ils vous ont fait une projection de combien de temps elle allait encore durer, notre station d'épuration? Est-ce qu'il serait bien de penser au futur?
Oui, mais c'est prévu. Alors, je ne sais pas si tu as l'info, toi, ou monsieur le DGS, oui, je crois qu'il est envisagé quelque chose.
En fait, effectivement, il y a une étude qui est lancée pour reprendre totalement. En fait, il va y avoir une nouvelle station d'épuration à Camaret, puisqu'il y a des problèmes techniques là aussi. Il y a des problèmes de dimensionnement et des problèmes de normes. Alors, je peux pas vous donner le détail, parce que je suis pas ça dans le détail, mais je sais qu'en ce moment, des études sont faites pour, donc pas remplacer, mais créer une nouvelle station d'épuration à l'endroit de l'actuelle et même étendue au terrain voisin.
La station actuelle serait toujours d'actualité, elle serait transitoire, si vous voulez, en attendant la mise opérationnelle de la nouvelle.
Ok, j'entends bien, vous comprenez mon inquiétude, quand je vois 70 000 euros de réparation, j'espère que dans les années futures, on n'en aura pas de plus en plus à ce niveau-là. Quoi.
Mais c'est dans cet esprit-là qu'une étude a été demandée, justement pour éviter d'accumuler tous ces frais.
Je mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Dossier numéro 20. Syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aigouvèze, approbation du rapport d'activité 2021, rapporteur Hervé Aurillac.
Je fais fi du premier paragraphe également. Ce rapport dresse un bilan synthétique de l'action de la collectivité et permet ainsi d'évaluer les moyens humains et financiers mobilisés pour la bonne marche du service de l'eau potable. Depuis le 1er janvier 2020, le RAO a été transformé en syndicat mixte fermé avec prise de compétence de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Vénessin, la COV, en représentation de la commune de Vaqueras. À la même date, les communes de Clansaille, La Baume de Transit et Solérieux ont intégré le syndicat, portant ainsi à 39 le nombre de communes et une communauté d'agglo. Le syndicat RAO compte 80 délégués titulaires et 80 délégués suppléants pour 40 communes adhérentes. 5 comités syndicaux se sont réunis et 57 délibérations ont été prises. En 2021, 5 marchés supérieurs à 5 000 euros ont été attribués. Travaux génie civil, réhabilitation du réservoir de Villedieu, travaux de renforcement du réseau AEP de Boucher et Tulette, raccordement réseau RAO au réseau CIBS, travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux AEP, Bolène, Pont Tricastin, PH phase 1, travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux AEP Saint-Romain, RD 51, Le Thouar, travaux de renforcement et de sécurisation des réseaux AEP Bolène, Pont Tricastin, phase 2. Depuis le 16 mai 2018, la société SOR assure, en tant que délégataire, la gestion du service public d'eau potable pour une durée de 10 ans. Ce contrat met en avant des engagements pris par le délégataire envers les usagers relatifs à l'exploitation de performance concernant le développement durable et organise le renouvellement dont le délégataire a la charge. En 2021, des réunions entre les services du RAO et le délégataire ont été organisées afin de suivre régulièrement son activité et le respect des clauses contractuelles. Les études et les travaux menés par le RAO durant l'année 2021, renforcement Boucher-Tulette et l'interconnexion du CIEBS Transail, renouvellement de la canalisation structurante sur la RD8 à Kéran, sécurisation du site de Tricastin et de la commune de La Palue, réhabilitation du réservoir de Villedieu, lutte contre les eaux rouges, sectorisation, pose de compteurs complémentaires. Le soutien financier apporté ces dernières années à l'association Entraide Mali, siège social à Uchaud, désormais dans différentes communes, a permis de faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations. L'année 2021 a été principalement consacrée à la création d'adductions d'eau potable par fontaine dans le village de Tiemba, à la création de deux forages avec pompe manuelle dans les villages Bozos et un raccordement au réseau d'eau potable de la maternité de Bandiou-Goufara. Enfin, le résultat d'exercice en section d'exploitation s'élève à 1 396 939 euros et le résultat d'exercice en section d'investissement s'élève à 5 008 379,23 d'euros. Il demandait donc au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité pour l'année 2021.
Monsieur Normani.
Juste une petite question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais on ne sait jamais. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage de pertes sur le réseau ?
Le pourcentage de pertes, non. Non, parce que ça peut évoluer d'une année sur l'autre en fonction des pannes, malheureusement. Et non, je n'ai pas de réponse précise à vous donner à ce sujet.
Très bien. Je mets aux voix. Et si, il faut voter. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Allez, vas-y.
Monsieur Normani. Là, le rapport nous indique que 3,76 mètres cubes par kilomètre et par jour d'indice linéaire de perte. Alors ça, je ne sais pas comment vous traduisez ça. Moi, je n'ai pas fait maths sup, donc... Si je trouve quelque chose de plus précis, je vous le dirai.
C'est important parce que...
Oui.
C'est des remarques. C'est intéressant parce que il parle des pertes par kilomètre, mais si c'est sur les communes et qu'on ne sait pas où est-ce que sont les pertes, ça peut entraîner des surfacturations sur certaines communes.
Absolument. On a mis aux voix ou pas ? Oui. Non. Alors je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 21. Syndicat intercommunal des eaux Rennes-Ouvèze. Approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'adduction d'eau potable. Exercice 2021. Rapporteur Hervé Auriac.
Pareil, je fais fi du premier paragraphe. La compétence d'organisation du service public de l'eau potable revient au syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aigouvèze. L'exploitation du service est assurée sous la forme de contrats d'affermage confiés à la société d'aménagement urbain et rural, la SOR, depuis le 16 mai 2018 pour une durée de 10 ans. Cette dernière est dotée d'une structure régionale comprenant le centre de gestion abonnés et usagers à Nîmes, d'une agence territoriale à Sainte-Cécile, ainsi que des antennes à Bolène et Vaison. Le syndicat intercommunal des eaux et maître d'ouvrage pour tous les travaux de renforcement et ou d'extension du patrimoine, ainsi que les travaux de renouvellement de génie civil, des captages et des canalisations. Les tarifs de base du délégataire sont actualisés par le biais de la formule contractuelle d'actualisation au 1er janvier. Les autres tarifs, notamment les frais d'accès aux services, sont fixés par le règlement de service. En 2021, la simulation d'une facture pour une année complète avec les tarifs du nouveau contrat entré en vigueur le 16 mai 2018 pour une facture d'eau type 120 m3 est de 268,87 € TTC, soit 2,24 € TTC. 266,49 € TTC, soit 2 € TTC par mètre cube en 2020. Une comparaison. Après, je ne sais pas pourquoi il parle de 120 mètres cubes, parce que généralement, on se base sur consommation de ménage qui est de 80 mètres cubes. Bon. Les données chiffrées sont les suivantes. 40 communes, 11 dans la Drôme, 29 dans le Vaucluse, 71 272 habitants, 37 057 abonnés desservis, 1944 pour Camaret. 4 259 625 mètres cubes consommés, 40 340 mètres cubes pour Camaret, 1328 km,8 de réseau, 1336 en 2020. C'est pas une erreur, là? Oui. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'adduction d'eau potable pour l'exercice 2021, présenté par le syndicat intercommunal des eaux Rhône-Aigouvaise et la société d'aménagement urbain et rural. C'est bizarre qu'il manque un bout. Des questions ?
Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Rapport numéro 22. GRDF. Compte rendu annuel de concession 2021 de distribution publique de gaz naturel de la commune de Camaret-sur-Aigle. Rapporteur Hervé Auriac.
Contrat de concession du 20 mars 1995, il a été confié au Gaz Réseau Distribution France, GRDF, sous forme d'une concession à la distribution de gaz naturel sur la commune de Camaret pour une durée de 30 ans, échéance en 2025. Conformément à l'article 32 du cahier des charges annexé au traité de concession et conformément à l'article L1411-3 du Code général des collectivités territoriales, le délégataire a transmis le rapport annuel 2020. Les chiffres clés de la concession, 13 km de réseau de distribution de gaz, 346 clients du réseau de distribution publique de gaz naturel, 356 en 2019. Une première mise en service client, 28 gigawatts quantité de gaz acheminé, 29 en 2020, 28 gigawatts quantité de biométhane injecté, 25 en 2020. Les incidents suivis et analysés en 2021 sur la concession, 16 appels de tiers, 22 en 2020, dont 4 pour dépannage. 13 en 2020 et 12 pour intervention sécurité, 9 en 2020. 7 incidents ou accidents constatés, 15 en 2020. 2 par manque de gaz ou défaut de pression sans fuite. 3 fuite de gaz sans incendie ni explosion. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver ce rapport annuel pour l'année 2021.
Merci. Y a-t-il... Oui, monsieur Normani.
Une information. Est-ce qu'on sait combien ça rapporte à la mairie ? Voilà. Ouais, la location des tubes qui passent sur notre sous-sol. Vous ne le faites pas assez ultérieurement, hein. Il n'y a pas d'urgence. Hein.
Si ça fait comme...
Ouais. Vous nous prenez un peu de cours.
Si ça fait comme...
Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, vous avez eu l'état des déclarations d'intention d'aliéner ainsi que l'état des décisions du maire. Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui. Concernant la démolition d'un bâtiment à usage de garage, un passe Saint-Andéol, il a été détruit par cause de vétusté, sécurité ?
Il n'est pas encore détruit. Cette destruction se fera pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Ouais. Donc c'est ce garage, oui, qui avait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il était fissuré de partout. On ne peut plus le consolider. Puis ne pas oublier qu'il y a l'école derrière. Donc il y a quand même des précautions à prendre. Donc ce travail sera effectué pendant les vacances scolaires de la Toussaint, le 24 octobre, je crois, pour okay, début des travaux.
J'ajoute que nous préférons le démolir, notamment parce que nous avons dans l'idée un jour, si le temps et les moyens financiers nous le permettent, bien entendu, de requalifier et d'embellir la place Saint-Andéol. Monsieur Normani.
Oui, deux questions. Je vois que vous avez des portes qui se rajoutent sur l'entrée de ville. Est-ce que c'était compris dans le budget initial ou est-ce que ça se rajoute? Première question. Et deuxième question, vous changez des caméras. Pour quelle raison? Est-ce qu'elles sont en mauvais état ou est-ce que c'est du renouvellement plus moderne?
Oui, c'était pour les caméras, c'était du renouvellement. Et pour les portes, est-ce que c'est...
Non,
C'est le 26-2022, fourniture et poste de menuiserie métallique et serrurerie pour le logement de l'entrée de ville confié à la Salana pour 18 240 TTC.
Ah mais ça c'est le portail, c'est le grand...
Je veux savoir si c'est compris dans le budget pré-initial ou pas.
C'est le grand portail...
J'ai compris. Mais je veux savoir si c'était prévu dans le budget initial ou si ça se rajoute.
C'était notre marché ou c'était le budget initial? Ça je ne sais pas.
Parce qu'on ne sait pas trop.
On vous confirmera, mais a priori, c'était prévu dans le budget initial. Alors, je... Alors, il y avait une question diverse du groupe d'opposition. Je vais vous la lire, ou vous vouliez la lire vous-même, mais sinon j'ai le texte sous les yeux, je vais le faire. Donc, monsieur, nous sommes interpellés par l'association Comité de jumelage européen Camaretois, Travaco Sico Mario, Camaret-sur-Aigle, concernant une demande de subvention pour le financement des activités de jumelage pour l'année 2022. Les jumelages entre les communes et les États membres de l'Union européenne sont régis sur le plan juridique par l'article L115-1 du Code général des collectivités territoriales. Dans la convention de jumelage validée en 2011 par le Conseil municipal, il est convenu que dans le but de donner au comité de jumelage les moyens nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont déléguées par le protocole et de permettre ainsi au plus grand nombre d'habitants de participer aux activités, la commune versera chaque année au comité de jumelage une dotation globale forfaitaire. Le montant de cette dotation a été fixé sur la base d'une contribution correspondant à 1 euro par habitant. Après la période sanitaire Covid, le comité de jumelage a retrouvé une activité conforme à sa vocation. L'association Comité de jumelage européen Camaretois vous a interpellé, monsieur le maire, afin d'obtenir le versement de la subvention à hauteur du montant habituellement accordé pour le bon fonctionnement et la pérennité du jumelage. Monsieur le maire, nous sommes attachés au bon fonctionnement de toutes les associations camaretoises qui contribuent au dynamisme et à la renommée de notre village. Signé Jean-Baptiste Savin, Françoise Virlouvet, Richard Brancorsini et Jean-François Normani. Donc, ce à quoi je réponds...
Permettez que je rajoute un petit mot.
Allez-y, je vous en prie.
Le président de l'association, donc Comité Jumelage Européen Camaretois Travaco Sica Mario Camaret, nous a sollicité, se sentant lésé après le refus de la mairie de leur accorder la subvention habituellement accordée dans le cadre des activités de cette association après l'accueil des Italiens à Camaret cette année, conformément à la convention de jumelage actée en 2011 entre les deux parties, la mairie et le comité de jumelage. Nous évoquons donc le sujet au conseil municipal comme souhaité par le président de cette association et nous souhaiterons connaître les raisons pour lesquelles vous n'avez pas accordé cette subvention.
Très bien. Donc, voici ma réponse. Après, nous pourrons en débattre, bien entendu. Plusieurs points. Selon la convention de 2011, et notamment son article 8, je cite, « La dotation sera votée chaque année par le conseil municipal lors du vote du budget primitif. Compte tenu des possibilités de la commune, des comptes présentés par l'association signataire et au vu du programme annuel proposé. » Donc, je réponds donc concernant les possibilités de la commune, et bien que dans le contexte financier actuel qui n'est pas du tout favorable, avec l'inflation généralisée, notamment dans le secteur énergétique, l'augmentation des charges de personnel sans compensation, la réduction année après année des dotations de l'État, et ainsi de suite, tout ceci sans que les impôts n'aient augmenté depuis notre arrivée aux responsabilités. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Comme il est dit dans l'article 11, c'est au vu des comptes de l'association. Or, cette association présente un solde positif dans son compte courant de 3 361,01 € et dispose sur un livret A d'une somme de 10 513,08 €. Enfin, article 10 de la Convention. La dotation n'a pas vocation à payer le voyage des Italiens, notamment en son article 10. Donc, puisque je viens de le dire, cette dotation ne peut en aucun cas servir à subventionner totalement ou partiellement les voyages de détente, de loisirs ou touristiques, y compris ceux des habitants se déplaçant à titre individuel ou en groupe, dans le cadre des visites habituelles entre villes jumelles. Le déplacement, l'hébergement, le repas et autres frais de même nature des administrateurs de l'association signataire, y compris les membres de droit désignés par le conseil municipal. Donc, je tiens à dire que cet article 10 de la Convention stipule bien que, en réalité, il me semble que c'est assez clair, la subvention de 1 euro par habitant n'est pas destinée à, ça paraît un peu paradoxal, mais au déplacement de nos amis italiens, contrairement à ce qui a été fait. Et bien entendu, en aucune manière nous disons que cette subvention a pu être utilisée par l'association, parce qu'on sait que c'est pas vrai de toute façon, pour payer les frais des administrateurs de notre association de jumelage, de notre comité de jumelage. C'est pas ça que l'on veut dire. Donc, il en résulte que, à notre sens, il faut remettre à plat cette convention qui est ambigu, en tout cas par rapport à la vocation du comité de jumelage, puisque c'est l'article 10 interdit que la subvention soit utilisée pour l'accueil des Italiens. C'est un peu quand même un peu mal foutu, si je puis me permettre l'expression. Donc ce que nous allons proposer au comité de jumelage de Travaco, c'est de nous revoir et de remettre à plat cette convention pour en tirer quelque chose de plus clair et qui permette de satisfaire tout le monde. Voilà, voici notre réponse si vous avez des questions. Prenez le micro, sinon vous ne serez pas audible.
Non, quand je vous l'ai expliqué, moi j'interviens parce qu'on m'a demandé d'intervenir.
Mais vous faites votre travail dans l'élu, exactement. Et c'est tout à fait légitime.
La réponse, c'est pas moi qui vous la fournir, c'est au président.
Voilà, exactement. Voilà. Alors j'ai deux informations, enfin en tout cas une en ce qui concerne nos amis ukrainiens. Vous savez que nous avions accueilli deux familles d'Ukrainiens à Camaré, dans des logements communaux. Une des familles, celle qui était au logement d'accueil d'urgence, nous a quitté déjà il y a déjà plusieurs semaines. Et l'autre, qui actuellement est au logement communal de La Poste, va nous quitter le 5 octobre. Elle a annoncé son départ. Donc voilà, je tenais à vous en faire part. Et l'autre information, c'est la prochaine séance du conseil municipal. Pardon. Ah oui, c'est pour retourner en Ukraine, oui, tout à fait. La première famille étant partie au Danemark.
Est-ce qu'on a droit aux questions diverses?
Ah, mais bien sûr.
Voilà. Oui, moi, je vous fais une petite remarque. Comme il est autorisé par la démocratie, c'est d'avoir dans le bulletin municipal, parce que ça on va appeler ça un bulletin municipal, puisque c'est plutôt qu'un magazine, dans lequel l'opposition a la possibilité d'exprimer un sentiment. Moi personnellement, je trouve déjà, parce que vous n'êtes pas le seul à faire, mais beaucoup de vos amis le font souvent, c'est de répondre de suite à notre... Vous faites un droit de réponse qui, pour moi, ressemblerait presque à une censure. Parce que vous ne laissez pas le temps aux gens de prendre les informations, vous devriez le faire la fois d'après. Mais ceci dit, vous êtes accoutumé du fait, alors je ne vais pas le dire. Par contre, la chose qui ne me plaît pas, c'est qu'on dit quelque chose et vous nous dites c'est café d'inexactitude. C'est café d'inexactitude. C'est pas tout à fait le terme que vous avez employé, mais en fait, c'est à peu près ça. À ce moment-là, monsieur le maire, c'est comme si vous êtes un menteur. Parce que moi, je vais vous dire une chose qui me déplaît profondément, et ça, je vous le dis à titre de Richard Brancorsini, et pas de conseiller de mon position, c'est que quand on dit quelque chose, c'est qu'on a des preuves. Et d'ailleurs, on vous les communiquera, on n'attendra pas 3 mois pour vous les communiquer. Mais par contre, vous dites vous aussi des inexactitudes. Parce que quand vous parlez de l'endettement de la commune, vous oubliez d'ajouter dans la ligne que la somme dont l'amortissement de notre dette, elle est sur 7 ans. Alors que dans les autres communes, elle est sur 3 ou 4 ans. Donc si vous faites une règle de 3, vous verrez qu'on a une charge beaucoup plus importante que dans les autres communes. Voilà. Alors je m'en demanderai en termes alors autre chose, c'est que depuis 31 ans qu'existe moi je me suis un petit peu renseigné, depuis 31 ans qu'existe ce magazine, qui ne s'appelait pas d'ailleurs comme ça au départ, c'est la première année où le conseil municipal ne produit pas les comptes de l'année précédente. Alors comme dit Madame Aubry, c'est elle qui avait appris le mot, quand il y a un flou, il y a un loup.
Alors, je répondrai, je trouve votre réflexion un peu étrange, puisque premier point, vous dites que quand on répond, quand la mairie répond parce qu'elle est un petit peu mise en cause, elle est un petit peu attaquée, c'est une forme de censure. Alors là, vous avez une drôle de conception, cher ami, du débat, de la démocratie, et surtout du principe du contradictoire. Chacun défend sa thèse. Parce que moi, je trouve ça tout à fait démocratique, légitime, et tout à fait normal que, quand il y a, sur un bout du magazine, il y a tel point qui est critiqué, ben, il y a la réponse tout de suite de la personne qui est mise en cause ou de la commune. Ça me paraît un élément essentiel du débat démocratique. Deuxième point, vous dites c'est la première fois qu'il n'y a pas eu de compte rendu des comptes. Eh bien, c'est pour ça que je vous ai dit, il me semble, en début de séance, qu'il y allait avoir dans le prochain magazine une présentation de comptes, un état de nos finances, prenant en compte, bien entendu, tout ce qui s'est passé en 2021, et notamment le compte administratif.
Monsieur le maire, permettez-moi, je ne manquerai jamais de respect, parce que j'ai beaucoup de respect pour la proposition, mais je suis 13 ans, ne me prenez pas pour un petit garçon. Hein, vous allez présenter les comptes de la commune de 2021 au mois de mars, au mois de janvier l'année prochaine. Ne vous moquez pas de moi, dites-moi que vous ne pouvez pas les présenter. Et vous savez très bien que les comptes ne sont pas terribles, mais moi, il n'y aurait aucune honte que vous disiez, et M. Bailly qui est là, l'a dit lui-même, nous n'avons pas la possibilité de nous endetter parce que nous n'avons pas aussi de financement. À mon sens, il n'y a pas de honte à le dire. Vous le dites vous-même à tous les jours en nous disant, c'est parce que les choses augmentent. Dites que vous avez des difficultés à cause du système, parce que moi, personnellement, ça ne me
gêne pas. C'est exactement ce que nous allons faire.
Mais faites-le.
Ce que nous n'avons pas voulu faire, chers collègues, c'est une présentation froide et toute simple et toute succincte du compte administratif. On veut aussi faire un article de fond sur les éléments de fond qui font qu'on arrive à cette situation financière-là. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas évoquer lorsqu'on se limite à rendre compte année par année des comptes de la commune. Il y a des choses qui remontent à plusieurs années en arrière et dont nous payons aujourd'hui des conséquences.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire?
Mais on est encore en
train de le faire. Il vous faut un an pour le faire.
Et c'est pas un an, c'est 6 mois. En plus, les comptes sont sur le budget, le compte administratif sont sur le site de la commune et aisément consultables par tout un chacun.
Le maire, je vous dis franchement, je crois qu'on prend pour un imbécile. Hein.
Non, mais là, je ne suis pas d'accord avec votre vision des choses. On ne vous prend pas pour un imbécile, on veut simplement expliquer ce qui n'est pas toujours dit. Et je trouve qu'il y a un grand intérêt à ce que certaines choses soient dites, et vous le verrez lors du prochain article du Ravelin qui va traiter des finances de la commune. Il y a plein de choses qui ne vont peut-être pas vous faire plaisir. Je n'en sais rien, mais que je tiens à dire au camarétois.
Je vous invite, monsieur le maire, à vous le faire parvenir en avance pour qu'on puisse faire la même réponse dans le Ravelin, dans le même document.
Voilà. Mais vous aurez la réponse.
Je vous invite à nous donner les informations en avance pour qu'on puisse vous faire une réponse.
Vous aurez
dans le même journal.
Aurez le droit d'y répondre dans le numéro suivant et voir en faisant référence à votre site internet ou votre page Facebook, je ne sais plus très bien, où vous rentrez plus dans la page Facebook, vous rentrez plus dans les détails. Tout un chacun peut accéder à votre vision des choses et c'est parfait comme ça. Moi, je suis très attaché au débat démocratique et au fait que quand il y a une mise en cause, la personne ou la commune mise en cause puisse répondre immédiatement pour la clarté des débats et pour la bonne information équitable de tous les administrés.
Je vais terminer, je ne veux pas vous embêter plus tard, mais quand vous répondez pas exactitude de la même manière, puisque vous annoncez un taux d'endettement par habitant sans tenir compte de la période d'endettement.
Non.
À mon sens, c'est incomplet.
Ce qu'on a voulu faire, c'est justement dire ce que vous n'avez pas dit. Parce que vous avez dit il y a une stabilité des recettes, donc il n'y a pas de raison que la commune soit en mauvaise santé financière, je schématise. Mais vous avez oublié de parler, vous aussi, de tout un ensemble de choses, et notamment l'augmentation de nos charges, l'augmentation de nos dépenses, que vous avez complètement omises. Et donc on a préféré le porter à la connaissance des lecteurs. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ces explications...
Le portail, c'est le portail de la maison Beck.
Ah, le portail, c'est la maison Beck. C'est pas... C'est une erreur dans la rédaction. Donc, la prochaine séance du Conseil, c'est...
Le
1er
ou le
6 décembre, vous en serez informé. Et vous êtes cordialement invité au pot de l'amitié.